Chapitre 20. Horrible péripétie. À 5 heures du matin, le lendemain de la plaidoirie de M. de Granville, le sénateur fut trouvé sur le grand chemin de Troyes, délivré de ses fers pendant son sommeil par des libérateurs inconnus allant à Troyes, ignorant le procès, ne sachant pas le retentissement de son nom en Europe, et heureux de respirer l'air. L'homme qui servait de pivot à ce drame fut aussi stupéfait de ce qu'on lui apprit que ceux qui le rencontrèrent le furent de le voir. On lui donna la voiture d'un fermier et il arriva rapidement à Troyes chez le préfet. Le préfet prévint aussitôt le directeur du jury, le commissaire du gouvernement et l'accusateur public qui, d'après le récit que leur fit le comte de Gondreville, envoyèrent prendre Marthe au lit chez les Durieux pendant que le directeur du jury motivait et décernait un mandat d'arrêt contre elle. Mademoiselle de Cinq-Signes, qui n'était en liberté que sous caution, fut également arrachée à l'un des rares moments de sommeil qu'elle obtenait au milieu de ses constantes angoisses et fut gardée à la préfecture pour y être interrogée. L'ordre de tenir les accusés sans communication possible, même avec les avocats, fut envoyé au directeur de la prison. À 10 heures, la foule assemblée apprit que l'audience était remise à 1 heure après-midi. Ce changement, qui coïncidait avec la nouvelle de la délivrance du sénateur, l'arrestation de Marthe, celle de Mademoiselle de Cinq-Signes et la défense de communiquer avec les accusés, portèrent la terreur à l'hôtel de Chargebœuf. Toute la ville et les curieux venus à Troyes pour assister au procès, les tachygraphes des journaux, le peuple même fut dans un émoi facile à comprendre. L'abbé Gouget vint sur les 10 heures voir M. et Mme d'Auxerre et les défenseurs. On déjeunait alors autant qu'on peut déjeuner en de semblables circonstances. Le curé prit Bordin et M. de Granville à part, il leur communiqua la confidence de Marthe et le fragment de la lettre qu'elle avait reçue. Les deux défenseurs échangèrent un regard, après lequel Bordin dit au curé « Pas un mot. Tout nous paraît perdu, faisons au moins bonne contenance. » Marthe n'était pas de force à résister au directeur du jury et à l'accusateur public réunis. D'ailleurs, les preuves abondaient contre elle. Sur l'indication du sénateur, le chéneau avait envoyé chercher la croûte de dessous du dernier pain apporté par Marthe et qu'il avait laissé dans le caveau, ainsi que les bouteilles vides et plusieurs objets. Pendant les longues heures de sa captivité, Malin avait fait des conjectures sur sa situation et cherché les indices qui pouvaient le mettre sur la trace de ses ennemis. Il communiqua naturellement ses observations au magistrat. La ferme de Michu, récemment bâtie, devait avoir un four neuf. Les tuiles et les briques sur lesquelles reposait le pain offraient un dessin quelconque de joint. On pouvait avoir la preuve de la préparation de son pain dans ce four en prenant l'empreinte de l'air dont les rayures se retrouvaient sur cette croûte. Puis les bouteilles, cachetées en cire verte, étaient sans doute pareilles aux bouteilles qui se trouvaient dans la cave de Michu. Ces subtiles remarques, dites au juge de paix qui alla faire les perquisitions en présence de Marthe, amenèrent les résultats prévus par le sénateur. Victime de la bonhomie apparente avec laquelle le chéneau, l'accusateur public et le commissaire du gouvernement lui firent apercevoir que des aveux complets pouvaient seuls sauver la vie à son mari, au moment où elle fut terrassée par ces preuves évidentes, Marthe avoua que la cachette où le sénateur avait été mis n'était connue que de Michu, de messieurs de Simeuse et d'Auxerre, et qu'elle avait apporté des vivres au sénateur à 3 reprises pendant la nuit. Laurence, interrogée sur la circonstance de la cachette, fut forcée d'avouer que Michu l'avait découverte et la lui avait montrée avant l'affaire pour y soustraire les gentilshommes aux recherches de la police. Aussitôt ces interrogatoires terminés, le jury, les avocats, furent avertis de la reprise de l'audience. À 3 heures, le président ouvrit la séance en annonçant que les débats allaient recommencer sur de nouveaux éléments. Le président fit voir à Michu 3 bouteilles de vin et lui demanda s'il les reconnaissait pour des bouteilles à lui, en lui montrant la parité de la cire de 2 bouteilles vides avec celle d'une bouteille pleine, prise dans la matinée à la ferme par le juge de paix en présence de sa femme. Michu ne voulut pas les reconnaître pour siennes. Mais ces nouvelles pièces à conviction furent appréciées par les jurés, auxquels le président expliqua que les bouteilles vides venaient d'être trouvées dans le lieu où le sénateur avait été détenu. Chaque accusé fut interrogé relativement au caveau situé sous les ruines du monastère. Il fut acquis au débat, après un nouveau témoignage de tous les témoins à charge et à décharge, que cette cachette, découverte par Michu, n'était connue que de lui, de Laurence et des quatre gentilshommes. On peut juger de l'effet produit sur l'audience et sur les jurés quand l'accusateur public annonça que ce caveau, connu seulement des accusés et de deux des témoins, avait servi de prison au sénateur. Marthe fut introduite. Son apparition causa les plus vives anxiétés dans l'auditoire et parmi les accusés. Monsieur de Granville se leva pour s'opposer à l'audition de la femme témoignant contre le mari. L'accusateur public fit observer que, d'après ses propres aveux, Marthe était complice du délit. Elle n'avait ni à prêter serment, ni à témoigner, elle devait être entendue seulement dans l'intérêt de la vérité. Nous n'avons d'ailleurs qu'à donner lecture de son interrogatoire devant le directeur du jury, dit le président qui fit lire par le greffier le procès-verbal dressé le matin. Confirmez-vous ces aveux ? Dit le président. Michu regarda sa femme et Marthe, qui comprit son erreur, tomba complètement évanouie. On peut dire sans exagération que la foudre éclatait sur le banc des accusés et sur leurs défenseurs. « Je n'ai jamais écrit de ma prison à ma femme et je n'y connais aucun des employés, » dit Michu. Bordin lui passa les fragments de la lettre, Michu n'eut qu'à y jeter un coup d'œil. « Mon écriture a été imitée, » s'écria-t-il. « La dénégation est votre dernière ressource, » dit l'accusateur public. On introduisit alors le sénateur avec les cérémonies prescrites pour sa réception. Son entrée fut un coup de théâtre. Malin, nommé par les magistrats comte de Gondreville, sans pitié pour les anciens propriétaires de cette belle demeure, regarda, sur l'invitation du président, les accusés avec la plus grande attention et pendant longtemps. Il reconnut que les vêtements de ses ravisseurs étaient bien exactement ceux des gentilshommes, mais il déclara que le trouble de ses sens, au moment de son enlèvement, l'empêchait de pouvoir affirmer que les accusés fussent les coupables. « Il y a plus, » dit-il. « Ma conviction est que ces quatre messieurs n'y sont pour rien. Les mains qui m'ont bandé les yeux dans la forêt étaient grossières. Aussi, » dit Malin en regardant Michu, « croirais-je plutôt volontiers que mon ancien régisseur s'est chargé de ce soin, mais je prie messieurs les jurés de bien peser ma déposition. Mes soupçons à cet égard sont très légers et je n'ai pas la moindre certitude. Voici pourquoi. Les deux hommes qui se sont emparés de moi m'ont mis à cheval, en croupe derrière celui qui m'avait bandé les yeux et dont les cheveux étaient roux comme ceux de l'accusé Michu. Quelque singulière que soit mon observation, je dois en parler, car elle fait la base d'une conviction favorable à l'accusé, que je prie de ne point s'en choquer. Attaché au dos d'un inconnu, j'ai dû, malgré la rapidité de la course, être affecté de son odeur. Or, je n'ai point reconnu celle particulière à Michu. Quant à la personne qui m'a, par trois fois, apporté des vivres, je suis certain que cette personne est Marthe, la femme de Michu. La première fois, je l'ai reconnue à une bague que lui a donnée Mademoiselle de Cinq-Signes et qu'elle n'avait pas songé à ôter. La justice et messieurs les jurés apprécieront les contradictions qui se rencontrent dans ces faits et que je ne m'explique point encore. » Des murmures favorables et d'unanimes approbations accueillirent la déposition de Malin. Bordin sollicita de la cour la permission d'adresser quelques demandes à ce précieux témoin. Monsieur le sénateur croit donc que sa séquestration tient à d'autres causes que les intérêts supposés par l'accusation aux accusés ? Certes, dit le sénateur, mais j'ignore ses motifs, car je déclare que, pendant mes 20 jours de captivité, je n'ai vu personne. Croyez-vous, dit alors l'accusateur public, que votre château de Gondreville pût contenir des renseignements, des titres ou des valeurs qui puissent y nécessiter une perquisition de messieurs de Simeuse ? Je ne le pense pas, dit Malin. Je crois ces messieurs incapables, dans ce cas, de s'en mettre en possession par violence. Ils n'auraient eu qu'à me les réclamer pour les obtenir. Monsieur le sénateur n'a-t-il pas fait brûler des papiers dans son parc ? Dit brusquement monsieur de Granville. Le sénateur regarda Grévin. Après avoir rapidement échangé un fin coup d'œil avec le notaire et qui fut saisi par Bordin, il répondit ne point avoir brûlé de papier. L'accusateur public, lui ayant demandé des renseignements sur le guet-apens dont il avait failli être la victime dans le parc et s'il ne s'était pas mépris sur la position du fusil, le sénateur dit que Michu se trouvait alors au guet sur un arbre. Cette réponse, d'accord avec le témoignage de Grévin, produisit une vive impression. Les gentilshommes demeurèrent impassibles pendant la déposition de leur ennemi qui les accablait de sa générosité. Laurent souffrait la plus horrible agonie, et, de moment en moment, le marquis de Chargebœuf la retenait par le bras. Le comte de Gondreville se retira en saluant les quatre gentilshommes qui ne lui rendirent pas son salut. Cette petite chose indigna les jurés. « Ils sont perdus, » dit Bordin à l'oreille du marquis. « Hélas, toujours par la fierté de leurs sentiments, » répondit M. de Chargebœuf. « Notre tâche est devenue trop facile, messieurs, » dit l'accusateur public en se levant et regardant les jurés. Il expliqua l'emploi des deux sacs de plâtre par le scellement de la broche de fer nécessaire pour accrocher le cadenas qui maintenait la barre avec laquelle la porte du caveau était fermée et dont la description se trouvait au procès-verbal fait le matin par Pigou. Il prouva facilement que les accusés seuls connaissaient l'existence du caveau. Il mit en évidence les mensonges de la défense, il en pulvérisa tous les arguments sous les nouvelles preuves arrivées si miraculeusement. En 1806, on était encore trop près de l'être suprême de 1793 pour parler de la justice divine, il fit donc grâce aux jurés de l'intervention du ciel. Enfin, il dit que la justice aurait l'œil sur les complices inconnus qui avaient délivré le sénateur, et il s'assit en attendant avec confiance le verdict. Les jurés crurent à un mystère, mais ils étaient tous persuadés que ce mystère venait des accusés qui se taisaient dans un intérêt privé de la plus haute importance. Monsieur de Granville, pour qui une machination quelconque devenait évidente, se leva. Mais il parut accablé, quoiqu'il le fût moins des nouveaux témoignages survenus que de la manifeste conviction des jurés. Il surpassa peut-être sa plaidoirie de la veille. Ce second plaidoyer fut plus logique et plus serré peut-être que le premier. Mais il sentit sa chaleur repoussée par la froideur du jury. Il parlait inutilement et il le voyait. Situation horrible et glaciale. Il fit remarquer combien la délivrance du sénateur opérée comme par magie, et bien certainement sans le secours d'aucun des accusés ni de Marthe, corroborait ses premiers raisonnements. Assurément, hier, les accusés pouvaient croire à leur acquittement, et s'ils étaient, comme l'accusation le suppose, maîtres de détenir ou de relâcher le sénateur, ils ne l'eussent délivré qu'après le jugement. Il essaya de faire comprendre que des ennemis cachés dans l'ombre pouvaient seuls avoir porté ce coup. Chose étrange, M. de Granville ne jeta le trouble que dans la conscience de l'accusateur public et dans celle des magistrats, car les jurés l'écoutaient par devoir. L'audience elle-même, toujours si favorable aux accusés, était convaincue de leur culpabilité. Il y a une atmosphère des idées. Dans une cour de justice, les idées de la foule pèsent sur les juges, sur les jurés et réciproquement. En voyant cette disposition des esprits qui se reconnaît ou se sent, le défenseur arriva dans ses dernières paroles à une sorte d'exaltation fébrile causée par sa conviction. Au nom des accusés, je vous pardonne d'avance une fatale erreur que rien ne dissipera, s'écria-t-il. Nous sommes tous le jouet d'une puissance inconnue et machiavélique. Marthe Michu est victime d'une odieuse perfidie, et la société s'en apercevra quand les malheurs seront irréparables. Bordin s'arma de la déposition du sénateur pour demander l'acquittement des gentilshommes. Le président résuma les débats avec d'autant plus d'impartialité que les jurés étaient visiblement convaincus. Il fit même pencher la balance en faveur des accusés en appuyant sur la déposition du sénateur. Cette gracieuseté ne compromettait point le succès de l'accusation. À 11 heures du soir, d'après les différentes réponses du chef du jury, la cour condamna Michu à la peine de mort, messieurs de Simeuse à 24 ans, et les deux d'Auxerre à 10 ans de travaux forcés. Gothard fut acquitté. Toute la salle voulut voir l'attitude des 5 coupables dans le moment suprême où, amenés, libres devant la cour, ils entendraient leur condamnation. Les 4 gentilshommes regardèrent Laurence qui leur jeta d'un œil sec le regard enflammé des martyrs. « Elle pleurerait si nous étions acquittés, » dit le cadet des Simeuse à son frère. Jamais accusés n'opposèrent des fronts plus sereins ni une contenance plus digne à une injuste condamnation que ces 5 victimes d'un horrible complot. « Notre défenseur vous a pardonné, » dit l'aîné des Simeuse en s'adressant à la cour. Madame d'Auxerre tomba malade et resta pendant 3 mois au lit à l'hôtel de Chargebœuf. Le bonhomme d'Auxerre retourna paisiblement à 5 Cygnes. Mais, rongé par une de ces douleurs de vieillard qui n'ont aucune des distractions de la jeunesse, il eut souvent des moments d'absence qui prouvaient au curé que ce pauvre père était toujours au lendemain du fatal arrêt. On n'eut pas à juger la belle Marthe, elle mourut en prison 20 jours après la condamnation de son mari, recommandant son fils à Laurence entre les bras de laquelle elle expira. Une fois le jugement connu, des événements politiques de la plus haute importance étouffèrent le souvenir de ce procès dont il ne fut plus question. La société procède comme l'océan, elle reprend son niveau, son allure après un désastre et en efface la trace par le mouvement de ses intérêts dévorants. Sans sa fermeté d'âme et sa conviction de l'innocence de ses cousins, Laurence aurait succombé. Mais elle donna de nouvelles preuves de la grandeur de son caractère. Elle étonna M. de Granville et Bordin par l'apparente sérénité que les malheurs extrêmes impriment aux belles âmes. Elle veillait et soignait Mme d'Auxerre et allait tous les jours 2 heures à la prison. Elle dit qu'elle épouserait un de ses cousins quand il serait au bagne. « Au bagne ?» s'écria Bordin. « Mais mademoiselle, ne pensons plus qu'à demander leur grâce à l'empereur !»« Leur grâce et à un Bonaparte ?» s'écria Laurence avec horreur. Les lunettes du vieux digne procureur lui sautèrent du nez. Il les saisit avant qu'elles ne tombassent, regarda la jeune personne qui maintenant ressemblait à une femme. Il comprit ce caractère dans toute son étendue. Il prit le bras du marquis de Chargebœuf et lui dit « Monsieur le marquis, courons à Paris les sauver sans elle !»